n'empêchera pas de jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent, ce sera tout à fait comme là.
Bonsoir, Radio Pleine Lune 93.8 MHz, son femme Radio Zone, la lune est dans vos oreilles, le froid est dans votre nuit, mais heureusement, 93.8 MHz, c'est l'heure de la pleine lune, et puis c'est voilà, on est en décembre, c'est le mois des cadeaux, alors c'est le moment d'y penser. N'oubliez pas que nous existons et que nous avons besoin de votre aide. Alors, quand vous préparez vos petits cadeaux de Noël, eh bien, pourquoi pas envoyer une carte, une demande de carte d'auditrice ou d'auditeur. Vous téléphonez au 50 40 51 41 023 depuis la Suisse. Non, excusez-moi, 059 depuis la Suisse, ou vous nous écrivez à Onde Femme Radio Zone, 7 boulevard Karl Vogt, 1205 Genève. C'est pas très cher, 30 francs suisses, 100 francs français, et c'est une aide essentielle pour la survie de la radio. Au programme ce soir, dans quelques instants, les informels, le bulletin de nouvelles de la pleine lune, suivi de Marjolaine qui arrive avec son cœur tout gros, tout plein de beaux rendez-vous. Alors, à tout de suite. Radio Pleine Lune 93.8 MHz, Sainte Femme Radio Zone, nos nouvelles. En France, les commandos anti-avortement sont de plus en plus organisés et le Front National s'en mêle. Et oui, voilà, maintenant ces commandos ont une assise politique. Les catholiques intégristes du Front National avaient empêté contre l'attitude discrète de leur parti sur les questions de l'avortement lors de la campagne présidentielle. Ils viennent d'obtenir une contrepartie officielle, un produit fait maison qui a été baptisé Ligue pour la vie. Cette toute nouvelle association qui disposait à la fête bleu-blanc-rouge d'un stand et d'un matériel de propagande flambant neuf propose de lutter, je cite, « contre les crimes contre l'humanité que sont l'avortement et l'euthanasie ». Le comité directeur est composé presque uniquement de membres de la direction du Front National. Il s'agit donc, je cite toujours, d'obtenir l'abrogation des lois organisant la mort des êtres vivants, loi Veil, Rudi et Neyertz. C'est donc la loi contre les opposants non-violents à l'avortement. Seul frein pour les intégristes, malgré une volonté, je cite toujours, de défendre une conception traditionnelle de la famille, la femme est tout de même invitée, je cite toujours, à exercer la maîtrise de son corps avant la conception. La contraception, elle, est autorisée par le Front National. Après ces variations sur fond de citations de Xavier Dor et de Le Pen, la conclusion de la brochure est, je cite toujours, « Le Front National est la seule formation qui, depuis sa création, a toujours défendu le droit à la vie ». Fin de citation. Avis aux commandos divers et variés, le ratissage du Front National au sein du lobby anti-avortement est maintenant officiellement organisé. Femmes du Sud, femmes du Nord, les inégalités sont inégalement réparties. Ainsi, à la Barbade, les Bahamas, Trinidad et Cuba, ces petits pays des Caraïbes, assurent mieux la participation des femmes à la vie politique, aux emplois de cadre supérieur public ou privé et aux professions libérales que la France, la Grande-Bretagne, la Hongrie, l'Espagne et le Japon. Si en Inde, 75% des hommes des castes inférieures et 22% des castes supérieures admettent battre régulièrement leurs femmes, en Belgique, plus de 40% des femmes interrogées disent avoir subi des violences. Ces exemples montrent que ni les inégalités entre les sexes, ni même l'oppression des femmes ne sont réservées aux pays dits en développement et que la richesse ou la pauvreté d'une société ne détermine pas la façon dont elle traite ses femmes. Comme l'explique en langage économique la Banque mondiale dans un rapport récent, cette inégalité tient d'abord, je cite, au processus de prise de décision dans la famille, mais influencée par les normes institutionnelles et les signaux du marché. Dans beaucoup de pays en développement, comme le souligne toujours ce rapport, les hommes se taillent la part du lion dans les activités économiques reconnues, laissant aux femmes le reste. C'est dans le tiers-monde que l'on trouve le gros des 11 000 milliards de dollars d'activités invisibles, effectuées par les femmes et non prises en compte par les comptabilités économiques. Dans certains pays, le travail non payé peut représenter un tiers du produit intérieur brut, selon toujours un rapport de la Banque mondiale. Cela ne correspond pas seulement aux travaux de la maison ou à la charge des enfants. Les femmes assurent une grande partie des tâches ou des emplois informels si importants dans les pays en développement, alors que le travail clandestin ne joue qu'un rôle marginal dans la plupart des pays industrialisés. C'est là aussi qu'elles trouvent le plus facilement à s'employer. Ainsi, au Botswana, près de la moitié des femmes travaillent dans le secteur informel. Et à Lima, au Pérou, c'est 85% des femmes. En Bolivie, elles y sont deux fois plus présentes que dans l'économie officielle. La proportion n'a cessé d'augmenter dans beaucoup de pays au cours des années 80, non seulement parce que la crise et l'ajustement structurel ont fait disparaître des emplois formels, mais parce que les femmes sont de plus en plus amenées à assurer toutes seules la survie de la famille. De manière générale, ce qui manque aux femmes du tiers-monde, c'est de disposer des services élémentaires en matière d'éducation, de santé, d'eau potable. Or, elles en tirent davantage profit que les hommes, à la fois en termes de revenus et de bien-être. Ainsi, une année de plus à l'école primaire se traduit en réduction de la fécondité, de la mortalité maternelle, en meilleurs soins et éducation aux générations futures. Les conséquences peuvent même être directement économiques. Selon toujours les études de la Banque mondiale, au Kenya, amener les femmes au niveau d'éducation des hommes augmenterait de 9 à 22% les rendements dans les cultures vivrières. Assurer à toute une scolarité primaire accroîtrait ceci d'un quart. Dans le tiers-monde, la femme demeure ainsi, pour reprendre une expression utilisée par Edgar Morin, un agent secret de la modernité. Les Nations Unies sont accusées de sexisme. Plutôt que de donner des leçons, les Nations Unies devraient donner l'exemple. Tel est le message que les États qui ont participé à la préparation de la conférence de Pékin ont lancé à l'ONU. Pour l'instant, les femmes représentent 28% du personnel des Nations Unies, mais elles ne sont que 11% à exercer des fonctions de cadre. Sur les 27 institutions onusiennes, 4 seulement sont dirigées par des femmes, l'UNICEF, le Haut Commissariat aux réfugiés, le Fonds des Nations Unies pour la population et le Programme pour l'alimentation mondiale. Parmi les 11 secrétaires généraux adjoints, on ne dénombre qu'une seule femme. Poussé dans ses retranchements, le secrétaire général des Nations Unies a accepté de promouvoir les femmes à des postes clés. La priorité leur sera accordée lors des procédures de recrutement et de promotion dans les postes soumis à la répartition géographique, en particulier dans les postes de direction. La proportion des femmes parmi le personnel devrait ainsi atteindre 35%. C'est ce qu'on appelle l'égalité. Un tiers des Françaises sont exclues du dépistage du cancer de l'utérus. Selon un document de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation médicale transmis aux partenaires de la convention médicale, il y a des inégalités sociales et des pratiques médicales déviantes. Cette agence relève qu'un tiers des femmes vivant en France n'ont jamais bénéficié des frottis cervicaux permettant de dépister à un stade très précoce les cancers du col de l'utérus. En dépit de l'existence de cette méthode fiable et peu coûteuse de dépistage, 2000 femmes meurent chaque année en France de cette lésion maligne. Selon l'association, il est urgent de mettre en place un dépistage de masse cherchant à toucher 100% de la population féminine âgée de 20 à 65 ans. La publication de ce document survient alors qu'un groupe de médecins libéraux réclame la suspension de, je cite, la référence médicale opposable sur le frottis qui, dans un souci de maîtrise des dépenses et de santé, impose de ne réaliser cet examen qu'une fois tous les 3 ans. « Toujours en France, procès contre un commando anti-avortement. Pour la première fois, des peines de substitution sont requises. Ça se passait à Mâcon. Dans ses réquisitions, le procureur de la République a demandé au tribunal de condamner le commando à un travail d'intérêt général, estimant que la prison devrait être réservée aux malfrats. Ce commando avait en octobre 1994 occupé pendant plusieurs heures la salle de consultation du centre d'orthogénie du centre hospitalier de Mâcon. Les protestataires s'y étaient enchaînés avec des antivols de moto en acier trempé. La fécondité serait-elle corrélée au chômage? Est-ce que le chômage ferait chuter la natalité? Une étude de l'INSEE semble le prouver. Elle note une chute de 4,3% du nombre des naissances en 1993. Cette baisse observée aussi dans les régions réputées fécondes serait peut-être liée au chômage. Beaucoup de jeunes adultes partent, ceux qui restent retardent la maternité et attendent des jours meilleurs. Parfois, cependant, le chômage a un effet inverse. Ainsi, les Anglais attribuent au chômage le phénomène des teenage mothers, ces mères adolescentes, deux fois plus nombreuses qu'en France, qui, faute d'avoir fait des études et de trouver un travail, font un enfant pour signifier qu'elles passent à l'âge adulte et que peut-être elles aimeraient que quelqu'un les aime. À Fribourg, le Conseil d'État est très léger par rapport à des inégalités de salaire. Depuis le mars 1994, 197 femmes, maîtresses d'école, maîtresses de travaux manuels et d'économie familiale, se battent pour une reclassification de leurs fonctions. Leur requête se base sur l'article 4 sur l'égalité, salaire égal pour un travail de valeur égale. En octobre 1995, une année et demie après que la loi et le règlement qui prévoient 2 mois de délai, le Conseil d'État fribourgeois fait part de sa non-décision. Il évoque qu'il entend reclassifier dans un contexte plus général toutes les personnes et donc elles n'ont qu'à attendre. En novembre 1995, le comité femmes du 14 juin a pris connaissance de la réponse du Conseil d'État et décidé de ne pas accepter cette réponse et de recourir au tribunal fédéral. Chose décidée, chose faite, en novembre 1995, ces femmes ont déposé un recours de droit public et un recours de droit public pour déni de justice. La loi sur l'égalité entrera en juillet 1996 et le syndicat et les femmes se réservent le droit de porter plainte pour discrimination salariale. Par son attitude envers les 200 femmes qui réclament l'égalité de salaire, le Conseil d'État fribourgeois a démontré une fois de plus son inconscience vis-à-vis des femmes décidées et courageuses et en supportera sûrement les conséquences inévitables. À Genève, un groupe de jeunes occupe l'Office cantonal de la population pour célébrer à sa manière la première année de l'introduction des mesures de contrainte. C'est oui, les lois sur les mesures de contrainte dans le droit des étrangers a juste un an. C'est le 4 décembre, il y a une année, que malheureusement le peuple suisse avait accepté cette loi infamante. C'est ce qu'a rappelé la Coordination pour la dignité humaine qui a donc occupé avec une quinzaine de jeunes le hall d'entrée de l'Office cantonal de la population durant une demi-heure. À cette occasion, la coordination fait part de ses revendications en matière d'émigration. Elle demande la suppression pure et simple des mesures de contrainte, car celles-ci ont déjà permis d'interner 3500 personnes entre février et août 1995, dont 83% n'avaient commis aucun délit. Ainsi, les craintes des opposants à ces mesures étaient fondées, relèvent ces jeunes occupants. Dans l'immédiat, ils revendiquent l'utilisation la moins liberticide de ces mesures, à l'instar du canton de Vaud, qui a mis sous loi une loi d'application restrictive et ne l'a utilisé qu'une seule fois. Les jeunes demandent encore une extension du droit d'asile en conformité avec les traités internationaux en la matière. À titre d'exemple, ils dénoncent le fait que la loi suisse n'a permis à aucun Algérien d'obtenir l'asile. Les jeunes réclament en outre la régularisation de tous les clandestins en Suisse dont le travail est nécessaire à l'économie, qui ne disposent d'aucun droit et sont donc les proies toutes désignées des mesures de contrainte. Pour faire appliquer leur programme, les jeunes en appellent à la résistance civile, à l'image de Paul Grüninger, qui vient d'être réhabilité alors qu'il avait désobéi à ses chefs pour sauver quelques milliers de juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Pour terminer, quelques nouvelles de l'absurde. Est-ce que vous avez vu le dernier film de James Bond? Eh bien, ce film, qui s'appelle GoldenEye, est comme toujours plein de gadgets. Et cette fois-ci, ces gadgets ont été fournis, entre autres, par l'armée française, qui a mis à disposition les deux fleurons de l'armée, la frégate dernier cri Lafayette et l'hélicoptère d'attaque le Tigre. Un coup de publicité de premier ordre pour la technologie militaire française, dont se félicitait à l'unisson tout l'état-major français. Mais quel malheur! Voici qu'on découvre aujourd'hui que derrière l'élégante silhouette de Pierre Brosnan, le nouveau et cinquième 007, se cachait un militant antinucléaire. Pire, un sympathisant de Greenpeace que les services secrets n'ont pas su débusquer à temps. Des États-Unis d'abord, puis à Paris où il était de passage pour assurer la promotion de son film, l'acteur s'est livré à des déclarations franchement hostiles aux essais chiraquiens. Estomaqué, les autorités ont préféré annuler la séance de gala programmée de longue date en avant-première de la sortie française du film en présence du ministre de la Défense et du gratin de l'armée. Invité à venir admirer sur grand écran les évolutions du navire furtif et du supercoptère. On craignait en effet quelques propos anti-français et anti-nucléaires de M. Bond qui auraient provoqué un fâcheux incident et contraint Charles Millon, ministre de l'armée, à quitter la salle. Pour l'armée, l'explication est claire. Ils expliquent désormais cette malheureuse affaire par la liaison que l'acteur entretient avec, je cite, une militante de Greenpeace qui le tient par le bout du nez. Comme toujours, l'armée à la pointe du progrès, pour eux, c'est toujours chercher la femme. Autre nouvelle de l'absurde, pendant 20 ans, la CIA a payé des médiums. Et oui, voilà, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Depuis le début des années 70, le recours à des médiums, voyants et autres spécialistes de télépathie est devenu quasiment banal pour les services secrets américains. Et le Pentagone, sans pourtant avoir jamais fait la preuve de son efficacité, c'est ce que révèle un rapport, a donc toujours employé, donné son accord à la CIA. Cette opération s'appelait le Stargate. Et elle a duré 20 ans et elle a coûté environ 20 millions de dollars. Un petit groupe de 5 ou 6 voyants, payé donc 1 million par année, c'est pas mal, fut dans ce cadre employé à plein temps et salarié par la CIA pour accomplir des missions dites d'observation à distance, vraiment très à distance. Les médiums furent ainsi chargés de localiser Kadhafi avant le raid américain sur la Libye, qui n'avait rien donné du tout, et l'emplacement de tunnels creusés par les Nord-Coréens et de rechercher d'endroits où ceux-ci dissimuleraient du plutonium, localisé aussi un peu partout à travers le globe, des personnes disparues. Les auteurs du rapport s'interrogent toutefois sérieusement sur l'efficacité de ces méthodes hors du commun. Après l'examen de plusieurs centaines de cas, il semble que c'est uniquement une vingtaine de petites histoires où les voyants auraient eu une idée lumineuse. Mais bien que ces cas soient isolés, ils ont suffi jusqu'à présent à maintenir en vie un programme dont le coût $1 million par an n'est pas tellement gros pour les États-Unis. Surtout, il semble que ce programme a bénéficié du soutien d'un petit groupe de sénateurs américains apparemment fascinés par les phénomènes paranormaux. Ceux-ci auraient été convaincus par l'argument selon lequel les services soviétiques, les Chinois et même les alliés européens auraient eu recours à des méthodes similaires. D'ailleurs, tout le monde le sait, Chirac a fait appel à un médium pour relancer ses essais nucléaires. On lui avait dit « c'est le moment, vas-y ». Pour terminer, notre cochon de la semaine, et cette fois-ci, eh bien, c'est la gauche romande qui le reçoit. Tout d'abord, le numéro lausannois de Gauche Hebdo, dans son 23e numéro, on pouvait lire ce petit encarté sur la conférence de Pékin. Je cite, « À la conférence de Pékin, les femmes ont revendiqué avec force l'égalité avec les hommes. Du coup, Patrick Juvet réclamerait les mêmes droits que les chanteurs. » voilà qui laisse perplexe. Bien entendu, c'est lumineux, mais ça nous semble sentir très mauvais. Et autre petite facétie, cette fois-ci de l'Alliance de Gauche Genevoix, qui déclarait en plein Parlement que la loi, c'était comme une belle fille, quelque chose qu'il fallait violer. Non, c'était comme une belle fille qui n'attendait qu'à être violée. Voilà, la gauche nous montre encore une fois que être de gauche n'est pas un vaccin contre le machisme et la bêtise. Pour terminer, quelques petites annonces. Nous avons reçu un appel de l'association romande de solidarité des maires des objecteurs. Cette association qui avait un petit peu arrêté de fonctionner, puisque avec l'introduction d'un simili service civil, finalement, il n'y avait plus besoin de tellement s'organiser. Eh bien, cette association a décidé de se revoir et voici ce qu'elle écrit. Il se trouve donc qu'entre ce mois de mai où nous avons décidé de dissoudre notre association, que à ce moment nous pensions ne plus être concernés par les incongruités flagrantes du système militaire, mais voilà qu'un drame en particulier s'est produit qui n'a pas été sanctionné comme l'aurait voulu le simple respect des droits de l'homme. Pierre Alain est décédé au cours d'une marche forcée nocturne tirée au bout d'une corde. Cette image intolérable hante notamment l'esprit des maires dont le fils a dû fait ou fera du service militaire ou de la prison. Les sentiments de révolte devant le mépris qui entache le jugement des responsables de ce décès sont très répandus. L'abbé Francis, curé de la paroisse d'Isérable, choqué par ce jugement méprisant, a demandé à des membres valaisannes de notre association de venir entourer les parents de la jeune victime. Cette demande vous est donc transmise par la présente. Si cela vous est possible, venez participer donc à la messe qui sera célébrée à la veille de la journée des droits de l'homme, le samedi 9 décembre à 19h. Dans l'église d'Isérable, avec la participation musicale d'un chœur de jeunes, puis joignez-vous à la famille et aux amis de Pierre Alain en une marche silencieuse jusqu'au cimetière sur la tombe de la malheureuse recrue, munissez-vous d'une bougie. La cérémonie à l'église devrait durer 3/4 d'heure, donc le tout, celle-ci, devrait durer 1 heure. Si vous avez besoin d'être hébergé, un numéro de téléphone en Suisse, 027 58 26 48, je répète, 027 58 26 48. C'est donc l'association romande de solidarité avec les maires des objecteurs qui vous appelle à cette veillée pour donc cette jeune recrue qui est morte suite à cette marche forcée. Je vous rappelle que l'officier responsable de sa mort a écopé de 20 jours de prison avec sursis. Et puis aussi le centre de contact suisse immigré qui est vraiment très en crise. Puisque en fait ils auraient dû être se réorganiser, cette réorganisation n'a pas pu se faire et donc l'État de Genève a quand même décidé de diminuer sa subvention. Et donc, subvention qui s'élevait à 140 000 francs et qui donc est passée à 50 000 francs. Donc une réduction vraiment assez importante. Et donc on ne sait pas très bien si cette association, qui fait un travail extraordinaire pour l'accueil et l'intégration des étrangers, pourra continuer. Déjà que jusqu'à présent, tous les moyens étaient tellement limités, cette modification tellement importante et brutale des ressources remet purement et simplement en question la poursuite de notre action, nous précisent les responsables du centre. Nous ne pouvons que nous élever contre ce choix politique du gouvernement, pénalisant ainsi un organisme qui a contribué depuis plus de 20 ans à assurer la qualité de l'intégration des immigrés dans ce pays. Nous pensons que notre centre doit pouvoir poursuivre son effort, qu'il s'agisse de campagnes de sensibilisation telles que l'école, la culture, les maladies, le droit de vivre en famille, des campagnes publiques sur les droits de l'immigration, du suivi individuel des dossiers, du rôle actif d'information, de réflexion dans les autres institutions qu'il s'agisse des groupes de travail, du réseau que les membres constituent, nous pensons, disent toujours le centre de contact suisse émigré, que nos activités sont indispensables à la vie de notre canton qui compte aujourd'hui plus de 38% d'étrangers. Bien qu'en danger de fermeture à court terme, nous ne baissons pas les bras. Nous continuons nos démarches auprès des autorités pour obtenir les moyens nécessaires à la poursuite de notre travail. Dans l'intervalle toutefois, nous sommes obligés de solliciter votre solidarité pour subvenir à nos besoins jusqu'à la fin de cette année. Il nous manque 25 000 francs pour terminer l'exercice. Je vous donne donc le numéro de compte postal. Et oui, c'est Noël, c'est le moment d'ouvrir votre portefeuille, pas seulement pour la pleine lune, mais aussi pour d'autres organisations non gouvernementales ou subventionnées qui ont vraiment besoin malheureusement, qui doivent faire appel aux aides privées. Donc le compte postal, c'est CCP 12-21-188-7. Je répète, 12-21-188-7, centre de contact suisse émigré. C'était donc les nouvelles sur la pleine lune 93.8 MHz en femme Radio Zone. Dans quelques instants, Marjolaine, qui depuis deux semaines a un cœur gros comme ça et qui vous préparera un programme extraordinaire pour ce mois de décembre. Il fait froid dehors, c'est le moment de sortir.